Mais que c'est ça?
Hé, de qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour et nous sommes de retour pour célébrer Halloween avec vous autres. Je suis en compagnie, mais en fait, pas en compagnie. Il est à distance, mais il est avec moi en même temps. Monsieur Tristan Brunet-Dupont, bonjour.
Hey, salut Jason.
Comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Ben oui, je sais que nos fans nous attendent. Écoute, on reçoit des messages à répétition chaque jour. On a des messages. Allez-vous revenir, là? Allez-vous revenir? Est-ce que vous allez revenir? Allez-vous revenir? Avez-vous abandonné le projet? Et on nous questionne. Et non, on n'a pas abandonné le projet. Oui, on poursuit. C'est juste que techniquement et dans les circonstances de la pandémie, c'est un peu difficile pour tout le monde. Mais non, on est bel et bien toujours présent et on a hâte de continuer à faire des sujets. Et là, on est là. Vous avez deux épisodes spéciaux pour Halloween qui s'en viennent. Le premier, Tristan, tu nous présentes un sujet. Et quel est-il?
Eh bien, on va parler des zombies.
Oh non!
On va parler des zombies. Il y a justement une personne qui nous écoute, là, qui nous avait proposé ce sujet-là.
Eh oui!
Je suis allé fouiller. Je la salue, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus de son nom. Bon sang, bonsoir.
Il va se reconnaître.
On la salue. Et ben oui. On remercie les gens, d'ailleurs, pour vos propositions de sujet, là. J'ai donc sélectionné les zombies pour le super spécial Halloween.
Hey, justement, on remercie les gens de continuer à être patients, à interagir avec nous comme ça, malgré que ça fait quand même plusieurs semaines là, qu'on n'a pas fait d'épisode. Les gens continuent quand même d'être actifs sur notre page Facebook, ça démontre un intérêt, ça me touche vraiment là, de voir ça. Et on salue les gens, non seulement de la francophonie là, en Amérique du Nord, parce qu'il y a des gens un peu partout en Amérique du Nord qui nous écoutent, mais aussi en Europe, et ça a l'air qu'on oublie la Suisse des fois. Ça a l'air qu'on oublie les Suisses qui nous écoutent. Ben, on vous salue.
On vous salue, mais en plus, tu sais, moi, je vais prendre le temps d'aller répondre, justement, par Messenger, là, à la personne qui nous a proposé le sujet des zombies. Parce que c'est le fun, là, tu sais, on a justement des commentaires privés, là, tu sais, des gens qui nous donnent des idées. Et puis, on va vous répondre, là. On vous lit avec attention. Des fois, on vous répond pas instantanément, mais sachez-le, on vous lit, puis on adore vous lire, là, puis avoir des réactions, là, suite à nos épisodes.
Et voilà, alors, dans le contexte actuel, moi, de mon côté, là, à la radio, ici, à Havre-Saint-Pierre, on est très, très, très occupés. On fonctionne à effectif réduit. On manque de temps. Il y a des affaires qui se passent dans nos vies personnelles aussi, qui sont très positives, mais qui sont très demandantes. Alors, non, on n'est pas toujours, là, assidus à répondre instantanément aux gens, mais on vous lit, puis on est là, puis on est content de vous lire.
Ben oui, puis là, j'essaie de me calmer, Jason, parce que je suis ben trop énervé, ça fait trop longtemps.
T'es trop content.
Je capote, je saute sur mon divan en ce moment.
Écoute, on est à Halloween, donc les épisodes sont prévus pour sortir le jour d'Halloween, et le zombie est un incontournable dans les films d'horreur, mais aussi dans les déguisements. Ça fait partie de notre folklore et notre culture, autant moderne que ça date pas d'hier, le zombie.
C'est justement, je trouvais ça curieux, parce que je me posais la question, j'étais comme, le zombie, c'est tellement populaire dans la culture populaire, justement, dans les films, hein, les séries, les livres, il y en a des milliers. Il y a des milliers d'ouvrages depuis des dizaines d'années sur les zombies, mais je me suis posé la question, ça date de quand? C'est quand que c'est apparu, ça, les zombies, dans l'histoire de l'humanité? Et je vais faire ma petite recherche, puis on va y aller ensemble en ordre chronologique. Des événements là, qui marquent l'apparition des zombies dans notre culture, dans l'histoire de l'humanité. Et ça date pas d'hier.
Et je sais qu'il y a plusieurs, je sais pas comment dire ça, des catégories, des types de zombies. Il y a le zombie cinématographique. Il y a comme plein de... c'est relativement complexe comme sujet. Là. C'est pas juste un... c'est pas... une ligne de conduite où on dit « bon, ben c'est comme ça qu'on s'en va, tu vas faire un autre chronologique », mais il y a plusieurs dénominations différentes de ce que peut être un zombie, là, justement.
Oui, vraiment, on peut parler du vaudou, là, des fois on fait référence à la zombification dans les certaines tribus africaines, ça on va vous en parler, je vais vous en parler, mais un peu plus à la fin, au début, on va faire en ordre chronologique, là.
Vas-y.
On va revenir dans le passé, mais oui, Jason, effectivement, il y a différents types de zombies, et c'est tellement énorme la quantité d'informations qu'il y a sur le zombie que, par exemple, depuis 2010, l'Université de Baltimore propose un cours sur les zombies dans le cadre d'une formation sur la culture pop, imaginez. Il y a même des cours à l'université qui se donnent, là, tellement qu'il y a de l'info là-dessus.
J'ai un diplôme en philosophie avec une mineure en zombie. C'est quand même cool.
Exactement.
Ah, c'est cool. Donc, c'est un sujet qui est, si ça mérite une formation universitaire, ou du moins un cours universitaire, c'est que c'est très, très, très large comme sujet.
Oui, vraiment. Puis, commençons. Hein.
Ah ben oui, excellent. On te laisse aller.
Alors, d'ailleurs, on va commencer par le début. On va reculer bien, bien loin, à l'Antiquité. Parce que en fait, là, la croyance aux revenants s'est développée parmi les hommes dès que ces derniers ont pris conscience de la mort et ont commencé à concevoir une existence après le trépas. Donc, dès qu'on a eu conscience, là, durant l'époque de l'Antiquité, qu'on meurt, on est mouru un jour.
Donc, la vie se termine et le mystère de l'après-vie.
C'est exactement ça. Donc, le mystère de l'après, ça a commencé à créer quelque chose dans l'imaginaire de l'humain. Et dès l'Antiquité, ce qui était différent, par contre, à l'époque, c'est qu'on n'avait pas encore fait la différence entre mort-vivant, fantôme, zombie, revenant. Tout ça, là, c'était la même chose.
Okay.
On parlait de mort-vivant qui revenait là, à la vie sous forme de spectre. Et souvent, on les imageait, d'après l'écrivain Lucien de Samosate, qui a vécu au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc là, on parle là, dans les années 150. C'est là qu'on a eu la première preuve dans l'histoire qu'on parlait un peu des morts-vivants, des zombies. Il dit « Ce sont les Grecs et les Romains qui représentaient parfois les revenants hantant les cimetières comme des squelettes avec une robe noire. »
Aha.
Donc c'était vraiment la première forme là, justement de morts-vivants, de zombies, de
fantômes.
C'était
une forme physique, c'était les restes en fait. Là. Parce que probablement qu'on savait que dans la terre, quand on enterrait quelqu'un, à un moment donné, la décomposition faisait qu'il restait juste le squelette. Et là, on imaginait que le squelette sortait de terre et c'est ce qui hantait les cimetières comme morts-vivants.
C'est ça, exactement. Donc, la première apparition là, de ce qu'on peut appeler un zombie, ça date de l'Antiquité, à l'époque des Romains et des Grecs. Et c'est vraiment la première apparition du squelette là, qui sort de sa tombe, qui sort de l'endroit où on l'a enterré et qui porte une robe noire. C'est la première image qu'on peut mettre là, du fameux zombie qu'on appelle aujourd'hui.
Donc là, on remonte à tout près de 2000 ans. Ben, en fait, pour le premier rapport, mais on remonte encore plus loin que ça, pour ce que les Grecs de l'Antiquité, eux, imaginaient, mais on remonte là, très, très loin. Mais la première fois que quelqu'un l'a décrit, c'est en 150 après Jésus-Christ à peu près.
C'est ça, exactement. La première preuve d'écriture là, qu'on a de preuve, si on veut, dans l'histoire, c'est celle-là. C'est l'écrivain Lucien de Samosate là, qui a vécu, lui, en 150, qui a écrit justement, là, qui a fait des recherches et tout, puis qui il a écrit que les Grecs et les Romains représentaient ça comme ça. Donc, c'est la première preuve qu'on a.
Excellent.
Ensuite, on va faire un bond. Jason, on prend la machine à voyager dans le temps.
Oui.
Voyager dans le temps.
Hey.
Mon son n'était pas fameux, mais bon.
Ben, c'est correct. On y va avec le budget qu'on a.
Ouais, on arrive au 14e siècle. Donc, c'est vraiment à l'époque du Moyen Âge, au moment où l'art apparaît. L'art, je parle vraiment, là, comment dire, c'est là qu'on commence à avoir des images qui ont traversé les époques.
Oui.
Les premières images de morts vivants. Tout a commencé avec l'épidémie de la peste.
Oui.
Cette figure, ce moment très, très important dans l'histoire a inspiré des artistes et l'une des premières, en fait, la première là, illustration de morts vivants, c'est l'illustration dite des trois morts et des trois vifs qui raconte la légende là, racontant la rencontre de trois jeunes seigneurs avec trois morts vivants qui sont plus ou moins putrifiés. Et à l'origine, en gros, cette forme, cette peinture-là, c'était pour inciter les gens là, à avoir une déconnexion avec tout ce qui est matériel, parce qu'ils disaient, dans le fond, c'était comme une manière d'encourager les gens à ne pas s'attacher à tout ce qui est matériel, parce qu'on va tous finir en cadavre.
On n'amène rien dans l'au-delà.
C'est
encore des choses qu'on entend, hein, les gens qui prennent un certain âge et qui se mettent à dépenser de l'argent qu'ils ont mis de côté et qui disent « Écoute, je ne l'amènerai pas avec moi de toute façon. » C'est encore une mentalité qu'on voit aujourd'hui, ça.
Oui, c'est vrai, effectivement. Puis on voit que ça date justement d'assez loin, là, cette mentalité-là. Même on peut revenir, on pense à, mettons, en fait, depuis tellement de civilisations que c'était comme ça, là, tu sais, qu'on enterre la personne avec ses
biens. Les Égyptiens, c'était incroyable, là, même. Ils faisaient assassiner leurs servants pour les amener dans l'au-delà.
Exactement, exactement. Mais là, c'est cette peinture-là, en fait, justement, raconte un peu, essaie d'encourager les gens à plus se concentrer sur le côté moral, là, tu sais, un idéal moral, tu sais, plutôt que d'embrasser tout ce qui est matériel. Mais ça, c'est la première peinture, donc, en 1348 qui a été faite. On l'appelle Vie des trois morts et des trois vifs. Et on voit justement trois morts vivants, là, qui courent après trois princes. Ça, c'est la première œuvre artistique là, qu'on peut parler de zombies.
D'accord.
Ensuite, on va avancer aux alentours de 1497, toujours à l'époque du Moyen Âge,
oui.
Où Albrecht Dürer exécuta une gravure intitulée Incubus ou Femme attaquée par la mort. Cette dernière représente un cadavre animé, barbu, commençant à se décomposer, qui agresse une femme épouvantée et tente de soulever sa robe. Cette peinture-là, elle est connue, mais la plus connue, c'est un disciple d'Albrecht Dürer, qui s'appelle Hans Baldungrien. C'est lui qui s'est engagé un peu dans la même peinture, là, mais lui, en gros, cette peinture-là est devenue épique, très connue, elle est même au Louvre actuellement.
Ah?
C'est la peinture Le Chevalier, la jeune fille et la mort.
Ah.
Et il montre un chevalier essayant de soustraire une fille aux griffes d'un horrible cadavre presque entièrement pourri, dont la chair des membres tombe en lambeaux, tandis que son ventre ouvert laisse échapper des entrailles noirâtres.
OK, fait que là, on est loin du squelette ou de la représentation philosophique de la mort finit tout le temps par nous rattraper, ou c'était très symbolique. Là, c'est très graphique ce que tu décris là.
C'est
un zombie tel qu'on le connaît.
Parfait, c'est macabre.
Oui, hein?
Le côté du Moyen Âge, très sombre, là, avec toutes les mythes, les créatures, les légendes.
On avait peur de tout.
Aussi, c'était très difficile, l'époque du Moyen Âge. On le sait, c'était terrible. Ça représente un peu ça. Il y avait une inspiration macabre dans l'imaginaire des artistes. Et cette œuvre-là en témoigne parfaitement. On voit justement là... Un monstre, là, un mort vivant, un humain mort qui essaie de mordre, de manger, en fait, cette femme-là. Il essaie de la dévorer. C'est ce qu'on constate là, dans l'œuvre. Il essaie de la manger.
OK. On se rapproche pas mal du zombie de la culture populaire là, avec ça.
Exactement,
je dis pas qu'on était rendu là, mais c'est...
des films de zombies contemporains.
Ben oui.
Et avant que, justement, le mot zombie existe et avant même tout ce qu'on a pu créer sur les zombies d'aujourd'hui, on voit que depuis 1497, depuis le Moyen Âge, c'est dans l'imaginaire.
Mais
ça existe.
À cette époque-là, on disait, est-ce qu'on le disait mort-vivant? Est-ce que c'est comme ça qu'on désignait ces créatures-là? Parce qu'il y avait quand même, on s'inspirait de quelque chose là, pour faire une toile comme ça, une personne qui revient des morts, il est en train de se décomposer, mais il veut manger la madame. On s'inspirait de peurs qui étaient répandues, de croyances qui étaient répandues. Mais est-ce qu'on les appelait morts-vivants?
De ce que j'ai pu lire rapidement, il me semble qu'on les appelait les revenants.
OK.
Parce qu'il revenait du domaine des morts.
Oui, parce qu'à un moment donné, il y a un amalgame de tout ça. Hein, parce que zombie, c'est pas nécessairement ça à la base. Mais on a fini par faire un amalgame de tout ça puis désigner ces créatures-là avec le mot zombie. Mais il fait une époque où c'était des choses différentes. Là.
Oui, absolument, c'est ça. Puis il y a une distinction très, très grande aujourd'hui à faire entre le fantôme, le zombie... le fameux toutes ces créatures-là, ils ont leur propre histoire, mais à l'époque, on voit que c'est un peu plus flou.
Ouais.
Il y a même j'arrive justement en parlant de ça, en 1550, dans l'art macabre de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, il y a une peinture là, que je vous invite absolument à aller voir, parce que on dirait une peinture de la série The Walking Dead. Là.
Ah oui!
C'est débile à quel point on voit que c'est ancré dans la peur de l'homme de se faire envahir par une armée de morts. L'œuvre s'appelle Le Triomphe de la mort.
OK, c'est assez descriptif.
C'est de Bruegel l'Ancien, qui était un artiste espagnol, là, écrivain, auteur, très connu, très populaire. Mais cette œuvre-là est une œuvre vraiment marquante dans l'histoire de l'art du Moyen Âge. Donc, le triomphe de la mort. Allez voir ça.
Ben, je t'invite à partager. Oui, ben, peut-être la partager, l'image, quand tu auras quelques minutes pour la mettre sur notre page Facebook pour que les gens puissent rapidement là, s'y référer.
Oui, absolument. Et puis, vous irez voir, là, quand je vais partager l'image avec le podcast, c'est fou, là. Il y a tellement de détails dans cette œuvre-là. On voit la mort qui porte la faux, qui est suivie d'une armée de morts. Et puis, bon, là, c'est le chaos, là. On voit que le ciel est rouge, tout est en fumée. Et les villages, les gens se font massacrer par l'armée de morts. Et on voit que c'est des squelettes, là, les morts vivants, mais... Bref, ça fait peur.
c'est ça. C'est assez... ça va pas bien. Hein? Ça non, va pas bien. Quand c'est de même, ça va pas bien d'habitude.
Exactement. Donc, la première mention connue du terme « zombie, Jason ».
Oui!
Ça se passe dans les Antilles.
Oui!
C'est fait dans l'œuvre de Pierre Corneille Blesbois en 1697.
Oh, ça remonte plus loin que je pensais.
C'est durant la colonisation et c'est dans l'œuvre « Le grand zombie du Pérou » ou « La comtesse de Cocagne ». Dans ce roman autobiographique faisant référence à sa période à Basse-Terre, en Guadeloupe, la figure du zombie est essentiellement un esprit mauvais, un être désincarné.
Ah.
Lors des déportations, les esclaves originaires d'Afrique ont amené avec eux leurs croyances, bien que le vaudou tel que pratiqué en Afrique soit limité originellement à l'ouest du continent. Bon. En gros, là, le vaudou, j'ai refait mes recherches quand même pas mal. Et ce qu'on apprend, c'est que c'était vraiment une culture qui n'était pas populaire auprès des communautés qui vivaient à l'ouest du continent de l'Afrique. Cependant, ça existait quand même. Ça faisait partie de certaines tribus et ça existait. Et c'est de là que ça vient, zombie. En fait, même dans le jargon, le langage de certaines communautés en Afrique, il y a toutes sortes de terminaisons là, au niveau de l'étymologie du mot, mais des fois, c'était zombie, jumba, j'en ai d'autres ici, là, mais bref, il y en a comme 15 différents.
Ouais.
Mais ça vient vraiment du dialecte des communautés de l'Afrique de l'Ouest quand il y avait des certaines tribus qui pratiquaient des exercices vaudous. Donc, on tentait là, de par sorcellerie de ramener des gens à la vie. C'est vraiment de là que ça vient.
D'accord. Parce que le vaudou, écoute, juste le vaudou mériterait un épisode complet, là, parce que c'est extrêmement large et la perception qu'on en a comme société nord-américaine du vaudou, c'est très négatif. Hein, on a une perception parce qu'on l'a appris, nous, que ça existait dans les films d'horreur, dans les séries, dans les livres, et c'est toujours très négatif. C'est jeter des sorts, c'est justement là, zombifier quelqu'un, mais... Le vaudou, c'est beaucoup plus large que ça. Puis tu l'as dit, ça s'est propagé de ce côté-ci de l'océan avec la colonisation parce qu'on avait des esclaves qu'on traînait. Et dans ces esclaves-là, on n'avait pas nécessairement la chance de pratiquer soit une religion. Et le vaudou s'est propagé parmi ces colonies d'esclaves-là. Et c'est là que c'est devenu pratiquement une religion là, à part entière dans certains endroits. En Haïti, par exemple, on en parle beaucoup. Si vous allez aux États-Unis, dans la Nouvelle-Orléans, vous allez entendre parler du vaudou. Le vaudou est très présent dans la culture en Nouvelle-Orléans. Et c'est là, c'est ancré là. Mais ça commence loin avec la colonisation, avec les esclaves qui étaient amenés ici et qui se sont regroupés ensemble et qui ont commencé à pratiquer le vaudou. Mais il y avait du positif dans ça aussi. Il y avait des sorts d'amour, des filtres d'amour, il y avait des potions de guérison, il y a des choses très positives dans ça. Mais nous, on en a retiré l'aspect négatif, l'aspect qui fait peur pour l'intégrer dans notre culture populaire, notre culture de films d'horreur, d'histoires d'horreur. Mais c'est très large, le vaudou aussi.
Oui.
Mais le terme zombie, tu l'as bien dit, ça vient de là, ça a commencé là, mais ça ne désigne pas nécessairement... Le même zombie que nous, on connaît, tu as parlé de Walking Dead tout à l'heure, la série, c'est pas tout à fait la même affaire.
Non, c'est ça, au niveau comme l'étymologie du mot, là, j'ai essayé de creuser, mais il parlait vraiment de quelqu'un qui est comme déconnecté. On parle pas d'un mort vivant du tout, là. On parle vraiment de quelqu'un qui est sous l'effet de la zombification par le vaudou.
Ouais.
Donc, c'est pas un mort qui est revenu à la vie. C'est vraiment quelqu'un qui paraît déconnecté, qui n'est plus conscient de lui-même, qui perd contact avec la réalité et qui paraît comme un zombie. Là.
Ben, c'est ça, c'est avec des produits chimiques, en fait, parce que ça existe vraiment, la zombification, oui. Là, pour les gens qui écoutent et qui vont dire « Mais oui, mais ça se peut, les zombies! » Oui, ça se peut, les zombies, ça existe. Il y a un produit chimique, un poison qui permet de créer un zombie. Mais c'est pas, comme tu l'as dit, quelqu'un qui revient des morts. Au contraire, c'est quelqu'un de vivant qu'on transforme en zombie.
Exactement. Et puis, Jason, moi, ce que je vous proposerais, là, j'ai trouvé une documentation qui parle de la technique scientifique de comment qu'on fait pour zombifier quelqu'un. Donc, je pourrais vous
expliquer exactement
avec quel produit on fait ça. Peut-être au retour de la pause.
Ben oui, on va faire une petite pause. Ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on jase. Alors, le tutoriel pour zombifier quelqu'un après la pause.
Exactement. Vous allez savoir quoi faire avec vos enfants à Halloween.
Un déguisement, c'est pas assez, on va créer un vrai zombie.
C'est ça. Exact.
Alors, on va aller faire une courte pause parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes. On a beaucoup de choses à dire encore une fois. On pensait faire un très court épisode et puis on est en train là, de se rendre compte qu'on a plus de choses à dire. Alors, on fait une courte pause, Tristan, puis on se retrouve tout de suite après.
Excellent.
Les dossiers bizarres est une présentation de.
Avez-vous déjà subi des douleurs ou des démangeaisons dues aux hémorroïdes? Ne faites plus une petite face surette en vous assoyant en public grâce à la crème Foufoune Joyeuse. Oui, la crème Foufoune Joyeuse soulage les douleurs, la démangeaison ainsi que le malaise social des hémorroïdes. De plus, la crème Foufoune Joyeuse peut être utilisée pour décaper un meuble, disponible dans toutes les bonnes pharmacies ou les quincailleries. Et nous sommes de retour, M. Tristan Brunet-Dupont. Un retour pour nous avec la situation mondiale globale de pandémie actuellement qui a compliqué les choses pour tout le monde. Mais là, on tenait à faire au moins un, puis peut-être deux épisodes pour Halloween. Alors, on parle d'un sujet populaire, un monstre de la culture populaire qui est toujours aussi populaire dans la littérature, les films, les séries, les jeux vidéo également, le zombie.
Oui, exactement. Et puis, tu parles de la pandémie, j'avais pas pensé à ça, mais ça a un certain lien hein, quand
oui.
On pense à certains films là où les zombies arrivent avec une pandémie, justement, un virus qui affecte le cerveau là, dans la culture populaire. Ça pourrait il y a un petit lien à faire. Là. Ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que le coronavirus se transforme en pandémie de zombies.
Non, sauf en que, fait, vois-tu, tu m'ouvres la porte, Tristan, hein, mais le jeu sur PlayStation The Last of Us, le 2 est sorti dernièrement, là, c'est un champignon qui affecte les gens, qui se transforme en espèce de machine à tuer, ce qu'on nous autres on désignerait comme un zombie, là, la personne n'a plus d'esprit, n'a plus de manière de penser, il veut juste mordre ou attaquer les gens. On appelait ça, il y avait une journée dans l'année qu'on désignait pour ce jeu-là qui s'appelait la journée de l'infection ou quelque chose comme ça. Et là, depuis le début du coronavirus, on a arrêté de nommer ça comme ça, justement, pour éviter les amalgames douteux avec le coronavirus puis ce qui se passe dans le jeu de Last of Us. Mais il y a le film, je pense que c'est 48 heures, un film britannique aussi, avec des morts-vivants ou avec des gens comme ça qui veulent tuer pour manger les gens, qui deviennent cannibales, qui sont ce qu'on appelle un zombie. Ces pandémies, là, c'est global, c'est à la grandeur de la planète. Souvent, ça va être ça, hein, on va appeler ça l'apocalypse zombie. Et
oui.
Souvent, ça vient d'une pandémie, justement. Quelqu'un qui s'est fait mordre par un singe, souvent, ça commence comme ça. Hein. Et puis là, tranquillement, la personne a contaminé d'autres, puis là, ça s'est répandu super rapidement. Mais souvent, c'est comme ça qu'on va voir l'arrivée dans les films ou dans les romans de zombies.
Oui, c'est vrai, effectivement. Il y a tellement de choses à dire par rapport aux zombies. C'est très, très large comme sujet, mais on survole quand même le gros du sujet. Et puis, on va y aller maintenant, Jason, avec la description du vaudou. Haïtien, la zombification, là,
ben oui,
qui existe.
C'est là qu'on était rendu. On parlait du vaudou, Tristan, ça a été importé en Amérique du Sud, en Amérique du Nord aussi, à certains endroits, avec la colonisation et les esclaves africains qu'on amenait ici, qui ont amené cette religion-là, parce que pour eux, c'est une religion, qui l'ont amené ici avec ces croyances-là. Et à Haïti, il y en a énormément également. Et il y a le processus de zombification qui est réellement un processus qui existe.
Oui, absolument. Et puis, en tombant là-dessus, j'en revenais pas. Je me pinçais en lisant ce qu'on trouvait sur le net. J'étais comme, mais voyons, je suis-tu en train de lire un article de fiction? Mais non, ça se passe pour vrai. Écoutez ça, je vous décris ça. Dans le vaudou haïtien, le zombie, c'est une personne victime d'un bacar, d'un prêtre vaudou, plongé dans un état cataleptique et privé de son âme par administration d'une puissante drogue à base de tétrodotoxine. La tétrodotoxine. Alors, la victime qui passe pour morte est ensuite enterrée au bout d'un certain temps, moins de 24 heures sous peine de mourir d'anoxie. Le sorcier revient déterrer le corps de sa victime à ressusciter tout en récitant diverses formules magiques. Extrait de sa tombe, on lui administre aussitôt, puis encore le lendemain, une pâte ou un liquide à base d'atropine ou de datura, un antidote qui élimine les effets du poison et le fait sortir de sa léthargie. Puis, on lui donne une drogue hypnotique qui rend la victime amnésique et la réduit en esclavage. Cet état étant facilité par les lésions cérébrales hypoxiques dues à la consommation de l'oxygène dans le cercueil. La tétrodotoxine ayant détruit leurs fibres nerveuses sensitives, certains zombies rendus insensibles aux petites blessures ont des muqueuses nécrosées comme la langue ou le voile du palais. Ouais. Un peu moisi, là, ce qui leur
donne. C'est ça, ils ont l'air d'être en train de se décomposer, dans le fond.
Exactement. Donc, ce qui se passe, là, c'est pas un mort qu'on ramène à la vie, c'est quelqu'un qu'on empoisonne, qui paraît comme mort, qu'on enterre et qu'on déterre avant qu'il meure de
étouffé dans le cercueil par manque d'oxygène.
C'est ça, exactement. Et puis après, on lui donne un antidote là, pour qu'il revienne un peu à lui, puis après ça, on lui donne un autre poison pour qu'il perde la mémoire puis qu'il tombe un peu zombie.
Et c'est quand même spécial, hein, parce que c'est un peu ce qu'on parlait, là. On a fini par faire un amalgame entre le mort-vivant et ce type de zombification-là qui existe dans le monde réel, là. Ça peut se passer actuellement pendant qu'on se parle que quelqu'un fait ça.
Absolument. C'est ça qui est fou. Puis la drogue est à base de tétrodotoxine. Ça, c'est un poison puissant qu'on retrouve dans le tétraodon. Tu sais, le poisson ballon.
Le poisson globe, ben oui.
Exactement.
Fugu! Fugu!
Le fugu haïtien, comme on l'appelle, ou le fugu japonais.
Oui, il y a l'épisode des Simpsons que Homer, il pense que manger de la tétrodotoxine.
Oui, c'est vrai.
Fugu! Fugu!
Oh my God, c'est drôle parce que j'ai écouté dernièrement, j'ai envie de flasher. Là.
Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le poisson globe. Il y a un poison extrêmement puissant, mortel à l'intérieur, qu'on prend et qu'on traite pour le rendre un peu moins potent. Puis, c'est juste à la limite de tuer la personne.
C'est exactement ça. Puis tu parles de la manière, là, justement, comment on le transforme. On peut le mettre de manière soit liquide à ingérer ou par contact avec la peau sous forme de poudre. Et c'est placé notamment dans les chaussures ou à l'intérieur des vêtements. Cette poudre est associée à une substance urticante du type venin de crapaud pour que la personne se gratte et que la poudre pénètre la peau.
Ah, ben!
En Haïti, on parle de recevoir un coup de poudre.
Ah!
Donc, elle donnerait à la victime toute l'apparence d'un mort là, par un arrêt complet apparent des fonctions vitales. Donc, un état de catalepsie.
Ah ah! Oui, puis la personne ne réagit plus à rien. Il n'y a plus de réaction à la douleur, plus de réaction. La personne est dans un profond coma tellement que ses signes vitaux ne sont pas détectés. Ben, évidemment, si on la mettait là, dans un hôpital ultra sophistiqué, probablement qu'on détecterait que la personne est encore vivante. Mais dans des situations plus de brousse, on pense que la personne n'a plus aucun signe vitaux.
C'est exactement ça. Elle paraît comme si elle était morte. Cependant, à ce qui paraît, on entend, on continue d'entendre ce qui se passe autour de nous. Donc,
ça doit
si
être épouvantable.
Qu'on bave, qu'on a l'air mort, on est quand même encore un peu conscient.
Oh.
Donc, ça doit être assez terrible comme effet.
Ouais. Ouais, c'est...
Puis, cette pratique, je le rappelle, est quand même courante en Haïti et au Bénin. Cependant, elle est interdite, bien sûr, mais elle perdure néanmoins. Un exemple, à la fin des années 90, près de 1000 nouveaux cas de zombification étaient recensés chaque année.
Ah, c'est fou. C'est complètement fou. Mais ça, c'est le zombie. Zombie, quand on parle de zombie, c'est de ça qu'on parle.
Absolument. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Jason. C'est exactement ça, parce que c'est lors de l'occupation d'Haïti par les États-Unis de 1915 à 1934 que le personnage du zombie a été introduit dans le patrimoine culturel américain.
Et voilà, on vient de trouver le coupable. C'est les Américains.
Exact, les Américains qui ont, justement, quand ils étaient là-bas, ils ont tout pris ça, là, tout ce qui se passait là-bas
ils
dans la zombification.
Se sont appropriés un peu la peur du zombie et ça l'a été transformé dans notre culture populaire tranquillement envers ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on connaît aujourd'hui.
Exactement. Et la première œuvre aux États-Unis, qui a été inspirée par ça, par le vaudou haïtien, c'est le film La nuit des morts vivants par George A. Romero en 1968.
Un classique.
Un classique, exactement. Premier film là, américain, première œuvre de la culture populaire par rapport aux fameux zombies.
Ouais.
C'est ce film-là. Un petit classique peut-être à écouter avec la famille hein, à l'Halloween.
Ben, avec ce qu'on a aujourd'hui comme moyen technologique, et quand on regarde ce film-là, c'est extrêmement mal fait. C'est en noir et blanc. En fait, la version originale, parce qu'on l'a refait un peu plus tard, là, mais la version originale, elle est en noir et blanc. Ça fait pas très peur, en fait. Là,
ah ouais,
quand on le réécoute, la version originale, c'est ça. Mais ça reste, ça demeure un point tournant dans le cinéma d'horreur. Si vous aimez les films d'horreur, là, c'est vraiment un point tournant où là, vraiment... Le zombie moderne américanisé a été introduit. C'est George Romero qui l'a fait avec ce film-là, où là, les zombies sortent de terre. C'est des gens, ils ont encore leurs vêtements de l'enterrement là, au moment où ils ont été enterrés, mais sont décomposés à la moitié et veulent croquer les gens pour transmettre la maladie du zombie. On s'organise en milice pour se battre contre les morts et bon, c'est le scénario standard hein, qu'on voit revenir de manière régulière, là, même dans, on a nommé Walking Dead tout à l'heure, qui est probablement la série la plus moderne ou la plus récente là, avec ce type de personnage-là, c'est encore ça, c'est on s'organise en troupe pour combattre les morts, mais c'est là que ça commence.
Oui, exactement. Puis ça a clairement inspiré une tonne de réalisateurs puis d'artistes qui ont créé des œuvres par la suite, comme tu le dis, parce que des œuvres par rapport avec les zombies dans la culture populaire, ça vaut même pas la peine de commencer à les décrire. Il y en a trop. Il y a une avalanche de livres, de séries, de films qui sont apparus par la suite avec des histoires de zombies. Et la plus populaire histoire de ce que je lisais là, à la fin, c'est que c'est vraiment, on parle du concept là, du infecté par un virus, l'humain bien vivant, mais infecté par un virus qui veut mordre une autre personne. Et là, quand la personne se fait mordre, ben là, le virus attaque le cerveau, lui faisant perdre toute humanité et le poussant à se nourrir de la chair humaine.
Tout à fait. Et c'est comme ça que le virus, hein, on dit, le virus, c'est intelligent, ça cherche à se reproduire, c'est instinctif, les virus. Leur vie, c'est tenter de se reproduire et de se répandre. Et que là, ils trouvent un autre humain et là, la facilité... pour se reproduire, c'est de mordre un autre pour se transmettre par la salive ou bon, peu importe, là, mais c'est souvent le scénario qu'on utilise parce que c'est le plus visuel de voir un zombie courir après quelqu'un pour le mordre, mais ça revient souvent à ça justement, à mode de transmission, c'est souvent par la morsure.
C'est très intéressant. Écoute, Jason, pour finir, j'ai deux petites affaires intéressantes, plus pour jouer, pour s'amuser, étant donné que c'est l'Halloween. Donc, premièrement, j'ai décidé pour le costume, si jamais vous voulez vous costumer en zombie. J'ai quelques descriptions là pour comment être le meilleur zombie.
Ah, ben vas-y donc!
Alors, premièrement, il ne parle pas, mais émet des fameux gémissements. Il se nourrit de chair vivante.
Ah, ben oui.
Ses capacités cognitives sont altérées. Il a les yeux blancs ou rouges. Son organisme commence à se décomposer lentement, ce qui provoque une peau blafarde ou pourrie, une odeur atroce.
C'est ce que je t'ai pour dire.
Et muscles plus fragiles. Et finalement, des blessures mortelles et des plaies ouvertes sont visibles sur le corps. Il boite fréquemment d'une jambe.
Ah, ben oui, il faut se traîner une patte.
Exactement.
Les zombies se traînent toujours une patte en arrière. Il y a toujours une patte qui marche moins bien que l'autre.
Oui, c'est ça, parce que les muscles et les os sont plus fragiles, donc se tenir debout, c'est pas évident, donc ça boite un zombie.
Eh oui, et dans les films de zombies, moi, je vous conseillerais... Écoute, je me souviens plus, je pense que c'est... C'est-tu 48 heures? Hmm. Hey, je me souviens plus. C'est un film britannique. Et on était habitué. Moi, quand j'ai vu ce film-là, c'est un rare film de zombies qui, je dirais pas qu'il m'a fait peur, mais il m'a créé une certaine anxiété. Et des fois, les films, c'est pas. On dit pas comme ah, j'ai peur, mais il y a comme un malaise qui s'installe. Hein? C'est comme pas super le fun de regarder le film, mais en même temps, c'est le fun parce que justement, ça nous crée une certaine anxiété. Et ce qui est particulier avec ce film-là, c'est qu'on avait l'habitude de voir les zombies lents, comme tu as décrit.
Ah,
zombies à moitié
des.
Non, avant lui, il y en a eu un autre qui a justement introduit le zombie rapide. J'ai pas d'autre manière de le dire. Mais on était habitué justement aux zombies lents qui traînent de la patte, qui ont de la difficulté à se déplacer, qu'on peut rapidement ou facilement là, distancer. Puis souvent, c'était la solution. Hein. On court vite, puis le zombie nous attrapera pas. Mais dans celui-là, les zombies, c'est tous des marathoniens hyper rapides. Là. Ils sont tous rapides. Et ça crée un certain... Ça déstabilise de le voir comme ça. Parce que non seulement ils sont infectés par l'espèce de maladie que c'est un singe, je pense, la prémisse de base, mais en plus... Ces zombies-là, ils sont rapides, ils courent vite et on ne peut pas là, juste se sauver en courant puis réussir à les distancer. Et ça n'en est un. Et j'oublie malheureusement le titre. Il y a sûrement quelqu'un qui va l'écrire sur notre page Facebook après avoir écouté le podcast. Mais il y a eu une suite également. Là.
Ah oui.
Je pense c'est 28 jours. C'est tout ça, Je pense que oui. Je pense que je l'ai trouvé. Et l'autre, la suite, c'est 28 jours plus tard et... Ça, c'est la suite, je pense, c'est 28 mois plus tard où là, on a tenté de recréer une société. Là, et puis, bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais c'est un film avec Cillian Murphy, là, qui est quand même un acteur qu'on connaît. C'est un film britannique avec un très petit budget, mais ça a été un succès phénoménal, étant donné justement qu'on introduisait un nouveau type de zombie qui amenait une autre dynamique complètement avec le zombie qui court vite.
Ah là là, les zombies de COVID, c'est vrai que c'est vraiment pas... si j'avais à vivre une apocalypse de zombies, j'aimerais tellement ça qu'ils soient là.
Ben oui, hein, ça me semble, c'est comme avantageux, qu'ils soient moins rapides un peu.
C'est ça, un zombie, c'est parce que... Puis, c'est parce qu'ils sont comme, tu sais, dans The Walking Dead, ils marchent, tu sais, fait qu'à chaque fois quelqu'un qui se fait mordre, faut vraiment qu'ils soient beaucoup trop nombreux, les zombies, ou que la personne était comme...
Il était distrait.
En gros, c'est assez agaçant. Moi, je trouve ça agaçant.
Il regardait son cellulaire. Il regardait son cellulaire, puis le zombie l'a pas
vu. C'est ça! Exactement! Puis, Jason, pour finir, une petite question sympathique.
Oui.
Si jamais on vit un apocalypse de zombies en 2040, ça serait quoi, toi, ton arme favorite?
Ah, écoute, moi, je suis un fan de Ash dans Evil Dead, ou en français, là, c'était l'opéra de la terreur, avec sa chaîne, ça. Moi, c'est la chaîne, ça. Il se fait couper la main. En fait, il doit se couper la main parce que sa main est infectée. Puis, pour éviter de lui être infecté, il se coupe la main. Et à un moment donné, il est fâché après les zombies. Alors, il prend une chainsaw et il remplace sa main par... Il se fait une prothèse en forme de chainsaw.
Je replace.
Fait que moi, ça serait la chainsaw. Moi, ce serait pas mal ça. Je sais que c'est pas efficace, mais ça fait du jus. Ah oui.
Ben oui, exactement. Question de tout ce qui est macabre, ça vient avec le lot. On parle de zombies, pourquoi pas une chainsaw?
Ben oui.
Puis, moi, dans le fond, ça serait un katana.
Ah, ben oui, un comme... Katana. La dame dans The Walking Dead, Michonne.
Oui, exactement, parce que j'ai fait des grandeurs nature, j'en parle souvent dans les podcasts, donc je maîtrise quand même pas mal l'arme blanche.
Aha.
Et je te niaise pas, là, Jason, je suis sûr que si les zombies étaient là, je deviendrais un genre une légende. Je pourrais exterminer des milliers de zombies, j'en suis certain.
Fait que ça, c'est considérant que le zombie est pas rapide, par exemple.
Non, exact. Dans la situation où les zombies sont très lents.
Ah, ben voilà. Écoute, on pourrait, à un moment donné, hein, ça pourrait adonner qu'on fasse peut-être une émission, mais se concentrer vraiment sur le vaudou. Parce que là, on a parlé d'une parcelle, une mini-parcelle de ce qu'est le vaudou avec les zombies, mais c'est tellement plus large que ça. Pour des gens qui... Vous avez peut-être déjà visité là, la Nouvelle-Orléans été là-bas là, pendant, je sais pas moi, le Mardi Gras ou... Il y a des boutiques de vaudou là-bas là, qui ont pignon sur rue. Là. Vous rentrez là, comme si c'était un magasin, un dépanneur, un magasin de chaussures. Mais on vend des charmes, on vend des joujoux, des potions, des pattes de poulet. On vend des choses pour faire des cérémonies vaudou. Et c'est reconnu, c'est là-bas, ça fait partie du paysage. Et là, on parle des États-Unis, on parle de la Nouvelle-Orléans. on est loin d'Haïti, on est loin de l'Afrique, là, mais là-bas, il y a eu énormément de ressortissants ou d'esclaves qui ont abouti là et ils ont amené le vaudou dans ce petit secteur-là des États-Unis. Et c'est très large également. C'est une religion à part entière pour eux. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le vaudou. Éventuellement, ça pourrait être intéressant là, d'en discuter.
Ben oui, absolument. On garde l'idée, c'est vrai, parce que juste dans la section de la zombification dans le vaudou, il y avait déjà énormément d'informations. Donc, comme tu dis, c'est une religion. Il y a du stock à dire là-dessus. On en prend note.
Et oui, un autre sujet de plus.
Exactement. Hey, c'était le fun.
Ben oui, hey! Ah, fait du bien, ça?
Ben oui, je suis content, là, ça... Moi aussi, j'étais rouillé un peu, là, je vous avoue, puis ça y est, on a rebrisé la glace pour une troisième saison.
Ben oui, on peut dire qu'on on lance une troisième saison. Elle sera peut-être pas régulière autant qu'on le voudrait, mais oui, on va essayer d'en faire d'une manière spontanée comme on fait là et dire qu'on est en troisième saison. Je pense qu'on est rendu là avec la pause qu'on a eue, là.
Ben oui, puis on va améliorer la qualité sonore éventuellement cet automne, là. Je vais m'équiper, là, avec un micro, fait
ben
que...
voilà.
Ça va être encore mieux.
Excellent. Hey, merci Tristan pour ce sujet fort agréable.
Ça fait plaisir.
Bon, ben on se retrouve bientôt.
Ben oui, absolument. Et puis, joyeux Halloween à tout le monde.
Ben oui. Houhouhou. Hey, bye bye.
Salut.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Vivez l'expérience du rasage de près le plus efficace de votre petite existence. Grâce au tout nouveau rasoir Biquette à 17 lames. 17 lames. Grâce à cette technologie unique de pointe, les 17 lames du nouveau rasoir Biquette interagissent entre elles pour vous offrir le rasage le plus doux, le plus près, le plus incroyable de votre vie. Les 4 premières lames soulèvent le poil. Les 4 autres lames le soulèvent juste un petit peu plus. Ensuite, les 4 suivantes coupent le poil. Ensuite, les 4 autres arrachent la peau. Et la 17e lame gratte l'os pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais de poil dans ce coin-là. Oui, le Biquette à 17 lames. Vous n'aurez plus jamais besoin de vous raser.
Il est conseillé lors de l'utilisation du rasoir Biquette à 17 lames d'être deux hommes adultes pour le soulever. La compagnie Biquette n'est pas responsable des accidents, des maux de dos ou bien non des coupures qui pourraient chicler partout sur vos murs.